simple officier y amour na yo Denise Beto Anye
Ebola
de la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. César Yao.
Bonsoir à tous. Le sommaire de ce jeudi 18h. Un hommage a été rendu à l'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, Kone Mamadou, décédé le lundi 8 avril dernier en présence du président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui jeudi à l'esplanade de la primature à Abidjan Plateau. Cette cérémonie mortuaire a été marquée par un discours d'hommage, la lecture de l'oraison funèbre et un défilé d'honneur militaire. Inauguration du siège du secrétariat exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana aujourd'hui à Accra. Le premier ministre ivoirien plaide pour l'instauration d'une véritable industrie du cacao. Enfin, dans l'actualité internationale au Sénégal, le nouveau président multiplie les mesures de vérification des comptes publics depuis son élection. Bassirou Diomaye Faye a ordonné de nouveaux audits et contrôles financiers hier mercredi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Décédé le lundi 8 avril 2024, les obsèques de Kone Mamadou, ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, ont débuté aujourd'hui jeudi. La nation lui a rendu un hommage à la primature en présence du président de la République. Compte rendu signé Junior Carnet.
C'est dans une zone de foulée bien aménagée que la cérémonie d'hommage s'est déroulée. La mise en place de la dépouille et les inclinations ouvertes par le chef de l'État ont constitué la phase du recueillement. Puis, il est revenu au magistrat hors hiérarchie, Yves Ngourin, de faire un témoignage.
Comment ne pas sentir le désert autour de nous lorsque l'on voit les chantiers à peine ouverts, abandonnés? Qui mieux que Kone Mamadou peut mener à leur terme les chantiers qui ont été identifiés en exécution des dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature? Monsieur le Président Kone avait une vision.
À sa suite, c'est Uya Kofi, président de la Cour de cassation, qui a dit l'oraison funèbre en déclinant un pan important de la vie de Mamadou Kone.
Mamadou, tu as sémé dans toutes les générations, dans le respect de tes aînés, en t'imposant un redoutable apprentissage auprès d'eux. Oui, as-tu accepté toutes les tâches dans bien de domaines au-delà du droit afin d'être en accord avec tes convictions? Monsieur Mamadou était silence. La main droite ne savait jamais ce qu'il y avait dans la main gauche pour donner et vice-versa. Il n'a pas oublié hier qui on était et d'où on venait.
La sonnerie aux morts et la remise du drapeau de l'État et de la dépouille à la famille par Alassane Ouattara ont constitué les dernières articulations de la cérémonie d'hommage à Mamadou Kone, qui sera inhumé dans la stricte intimité familiale à Boaké ce vendredi 19 avril après la prière de 13h.
Et tout autre chose dans ce journal, le porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Justin Kone Katina, a affirmé lors de la 24e édition de la tribune du PPACI au siège du parti que le parti détient des preuves de l'innocence de Laurent Gbagbo dans le braquage de la CDAO. L'impact de la dette ivoirienne a été également discuté avec des informations supplémentaires fournies. On en parle avec Christelle Yesso.
Sur la question du braquage de la BCAO, Justin Kone Katina, président du conseil stratégique et politique du PPACI, explique de tenir les preuves de l'innocence de Laurent Gbagbo.
Il y a un document sur lequel il y a tellement de recherches
qui ont été faits pour pouvoir prouver. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a braqué la BCAO, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a braqué le président Laurent Gbagbo. Et on va vous donner les éléments pour vous justifier. Et pourquoi ça, là, ça ne peut pas nous empêcher d'arriver à notre fin.
Concernant la possibilité de faire place à la jeunesse, Koné Katinan déclare.
Nous avons dit plan B, plan C, plan D, ou alors si nous avons bon, le plan A s'appelle Laurent Gbagbo, le plan B s'appelle Laurent Gbagbo, et le plan D s'appelle Laurent Gbagbo.
La question de la dette ivoirienne a également été abordée au cours de cette tribune.
Le service de la dette, qui était de 230 milliards, donc on remboursait 230 milliards. En 2063, le service de la dette est passé à 3 742 milliards. Alors que le PIB n'a augmenté que de 92%. Mais le service de la dette, c'est 16 fois ce que nous payons en 2012. Ça n'allait pas doubler ton PIB. Comment tu fais pour payer? Quel est l'impact du quotidien? Moi, j'ai reçu ma fiche d'impôt foncier. Ça a augmenté 60%. Je ne sais pas si tu as vu les factures d'électricité. Alors que parallèlement, ils augmentent, ils diminuent les revenus des populations les plus vulnérables.
Concernant la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI dit n'avoir toujours pas reçu de réponse du gouvernement suite au courrier de discussion adressé.
Charles Blé Goudé, le président du COGEP, a crié à la face du monde son ras-le-bol pour, dit-il, s'indigner contre ce qu'il qualifie de géométrie variable. Selon Dr Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP, Charles Blé Goudé est le seul pro-Gbagbo dont les comptes sont encore gelés, condamné à 20 ans par la justice ivoirienne et radié sur la liste électorale. Il crie ici, n'est-ce pas, ici précisément le cri de cœur du docteur Patrice Saraka.
Charles Goudé, jusqu'à ce jour, est la seule personnalité politique pro-Gbagbo condamnée à 20 ans, qui a ses avoirs gelés et qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. Alors que, on se souvient, après la CAN, le président de la République a décidé de gracier un certain nombre de personnalités, de prendre certaines mesures d'apaisement. Charles Goudé, quant à lui, subit ce traitement particulier. Le mot qu'on puisse dire, c'est un ras-le-bol, ce sont des interrogations, parce que c'est une politique de deux poids, deux mesures. Cela est incompréhensible pour Charles Goudé. On a le sentiment qu'on veut empêcher Charles Goudé de compétir, on veut empêcher Charles Goudé de faire la politique comme il veut la faire.
Voilà l'instant, docteur Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP. Le gouvernement poursuit sa politique de modernisation du secteur des transports en Côte d'Ivoire. À cet effet, le ministre des Transports a fait adopter hier mercredi un projet de loi portant ratification de la loi sur le transport intérieur. Ce projet de loi adopté par l'ensemble des députés de la Commission des affaires économiques et financières vise à renforcer les pouvoirs de l'autorité de régulation du transport intérieur, le ministre des Transports, Hamadou Koné, après l'adoption du texte.
Le gouvernement, dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation du transport, a pris un certain nombre de dispositions. Donc en 2014, une loi sur le transport intérieur a été adoptée. Par la suite, quelques modifications ont été faites pour que, en termes de régulation, de sanctions, en termes d'application donc des décisions et des mesures qui sont prises pour que le transport se porte bien, qu'il y ait beaucoup plus de fluidité donc sur les routes, que le transport se modernise globalement, que ces modifications nécessaires soient portées à la connaissance des populations. Pour que cela soit, après donc la prise d'une ordonnance par le président de la République, nous sommes venus à l'Assemblée nationale pour permettre la ratification donc de cette loi. Donc c'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui, ce qui permettra à l'autorité de régulation du transport intérieur qui a commencé ses activités en 2021 d'avoir plus de pouvoir pour sanctionner, pour obliger les acteurs du secteur des transports, notamment les nouveaux en ce qui concerne donc le transport urbain, les VTC donc en particulier, mais également faire en sorte que toutes les concessions dans le transport intérieur soient respectées. Donc ce qui nous permet de faire un suivi régulier de l'ensemble des contrats, des concessions que nous avons et de faire en sorte que les engagements qui sont pris par les acteurs de transport, que ces engagements-là soient respectés.
Voilà, c'était le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, Hamadou Koné. Arrivé hier mercredi 17 avril 2024, Centre à Accra, la capitale ghanéenne, où il prend part aujourd'hui à l'inauguration du siège du secrétariat exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a été reçu en audience par le vice-président du Ghana, Mahamadou Bawumia. Le chef du gouvernement ivoirien a pu s'entretenir avec son hôte sur la nécessité pour les deux pays d'instaurer une véritable industrie du cacao. Nous l'écoutons.
Nous sommes heureux d'être ici pour que ce soit une occasion pour nos deux pays de lancer cette grande possibilité qui nous est offerte de consolider notre coopération en installant un siège pour l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cela est une chance pour nos deux pays parce que grâce à cette entente, nos valeureuses populations peuvent maintenant bénéficier de façon très notable du fruit de leurs efforts parce que nous sommes avec le Ghana un gisement de près de 63% de la production du cacao dans le monde. Cela est très important. Mais au-delà de la culture du cacao, il faut savoir qu'il y a lieu d'instaurer une industrie cacaoyère. Je dis bien une industrie cacaoyère et il y a plusieurs vecteurs sur lesquels le président de Alassane Ouattara a demandé que nous puissions travailler avec le Ghana et ce n'est qu'un début. Donc je suis venu le représenter pour amorcer cette grande coopération qui fera de nos deux pays la zone géographique où le cacao est solidement implanté.
Voilà à l'instant Robert Beugré Mambé, Premier ministre des Sports et du Cadre de Vie. Retour en Côte d'Ivoire, toujours dans la même filière. Les producteurs de café cacao de la région du Tonkpi viennent d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, et son gouvernement à travers une marche pacifique suivie de la lecture de leur motion à la préfecture de Mans. Cela fait suite à l'annonce de la majoration du prix Borchand de la campagne intermédiaire de commercialisation du cacao fixée à 1500 francs CFA. Le point avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
Les producteurs de café cacao de la région du Tonkpi donnent les raisons de leur mobilisation à la préfecture de Mans.
On est content d'être là?
Oui!
Est-ce qu'on a déjà payé cacao à 1500 en Côte d'Ivoire?
Non!
Monsieur le gouverneur, on est content du prix de 1500 et on est venu dire merci au président Alassane Ouattara.
Et non sans parler de ce fait qui fragilise ce secteur, doit Blondé Obette, président de la fédération.
La ville de Mans est généralement utilisée par des soi-disant leaders de producteurs de cacao. Café cacao pour organiser des manifestations de grève pour boycotter les projets et programmes du gouvernement en faveur des producteurs café cacao que nous sommes. Nous les producteurs, les vrais, ne saurait être un fonds de commerce pour certaines personnes qui ne défendent ni nos intérêts ni les intérêts de notre corporation. Nous disons vrais producteurs, ceux qui sont recensés et qui ont des cartes de planteurs. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, nous avons environ 1 million de producteurs de café cacao qui sont recensés.
Le préfet des régions du Tonkpi, Wamblignon Célestin, dit prendre la pleine mesure du contenu du message.
Mesdames et messieurs les productrices et producteurs, merci d'avoir compris le message du gouvernement. Je voudrais vous rassurer en vous disant que le prix fixé par le gouvernement sera effectivement respecté. Passe Dieu que la campagne de cette année soit l'une des meilleures campagnes. Que vous bénéficiez effectivement de ce prix-là pour vous réaliser et surtout pour entretenir vos familles.
Bien que le prix Borchand connaît une majoration, la campagne intermédiaire demeure pour l'instant morose. Stéphane Adams, Radio de la Paix.
Dans le cadre des activités de plaidoyer de la société civile pour une meilleure réforme de la législation minière, l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire organise les 17 et 18 avril 2024 dans la commune de Cocody avec l'appui technique et financier de la coopération allemande un atelier de remise officielle des contributions de la société civile à l'administration en marge de la réforme. Forme du code minier ivoirien de 2014. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Lors de cet atelier, le président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire, Kone Vazoumana, est revenu sur les dangers liés à l'orpaillage illégal.
Je parle de pollution de l'air, je parle de pollution de nappe phréatique, je parle d'utilisation des produits chimiques. Il y a près de 558 kg de mercure qui sont perdus dans la nature chaque année du fait de l'orpaillage.
Pour Koulibaly Seydou, directeur général des mines et de la géologie, il est
impérieux de réformer le code minier de 2014 pour ses insuffisances.
La refonte de ce code, qui va prendre en compte certains concepts qui n'étaient pas prévus, comme les mines souterraines, dans un an et demi, on aura la première mine souterraine en Côte d'Ivoire, la mine de Yaoré à Boafli. Notre code actuel ne parle pas des mines souterraines. Le contenu local n'est pas suffisamment traité dans le code actuel. La notion de complexe minier n'est pas prévue dans ce code-là.
Sur les grands as des propositions de la société civile pour la réforme du code minier ivoirien de 2014, Kone Vazimana.
Les grands as, les engagements climatiques de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi les droits des communautés qui sont faiblement pris en compte dans le code minier actuel. Et il y a le développement local sur lequel il faut se pencher. Si ces axes sont véritablement pris en compte, nous pensons qu'on aura fait un grand pas avec ce nouveau code minier.
En 2022, les chiffres pour l'ensemble des sociétés d'exploitation du secteur minier en Côte d'Ivoire étaient de plus de 1422 milliards de francs CFA contre plus de 1100 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 23,25%.
La page culture de ce jeudi 18h, l'édition 16h du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua aura lieu du 14 au 19 mai prochain ici à Abidjan et également à Ferkessédougou autour du thème La santé mentale des jeunes. Il a été lancé en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akawele, hier mercredi avec pour pays invité d'honneur la Guinée-Bissau. Pour cette année, ce sont plus de 30 artistes programmés avec de grands noms de la musique tels que Maître Gims, Gagi Seli et Yemi Alade. Des détails avec Salif Traoré dit Asalfo, promoteur du festival.
On a la pression supplémentaire de faire de ce Femua un Femua inoubliable. Surtout quand on sort d'une Cannes réussie, on s'est dit côté culturel, on doit aussi relever le défi. Donc c'est un Femua qui inaugure un nouveau cycle de 5 ans et je crois qu'avec la programmation artistique qui a été faite, la Côte d'Ivoire va vivre des moments inoubliables du 14 au 19 mai prochain. De manière inédite, nous allons faire que c'est doux cette année. Donc c'est un autre environnement qui va donner naissance aussi à un autre Femua. J'invite tous les festivaliers à venir vivre cela parce que ça ne peut pas se faire à contre, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Le thème de cette année, c'est la santé mentale des jeunes qui est un sujet tabou mais que nous devons dévoiler. Et le Femua est là aussi, c'est pour mettre l'accent, le doigt sur certains problèmes de la société qui ne sont pas forcément vus par la population. Et pour nous, il était important de mettre l'accent sur la santé mentale des jeunes qui est quand même un sujet très important mais moins débattu dans nos pays. Donc cette année, le Femua va nous permettre de rencontrer des jeunes, de faire venir aussi des experts qui vont partager leurs expériences, qui vont donner des indications ou des recommandations qui vont permettre à ces jeunes-là de pouvoir mieux s'orienter.
Voilà, c'était Salifo Traoré Dia Salfo, promoteur du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua. Dans l'actualité internationale au Sénégal, le nouveau chef d'État multiplie les mesures de vérification des comptes publics après avoir demandé il y a une semaine à son gouvernement d'auditer le fonctionnement des différents ministères et de faire un point sur la situation des finances du pays. Et il vient d'ordonner de nouveaux audits et contrôles financiers. Il y a d'abord cette demande à l'inspection générale d'État de faire un rapport sur chaque passation de service au sein des différents ministères du Sénégal. En clair, les ministres sortants vont avoir à rendre des comptes sur la gestion de leur budget. Bassirou Diomaye Faye avait déjà annoncé la semaine dernière un audit des ressources humaines et budgétaires dans les différents ministères. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel de l'essentiel. Un hommage a été rendu à l'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, Kone Mamadou, décédé le lundi 8 avril dernier en présence du président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi à l'esplanade de la primature ici à Abidjan Plateau. Cette cérémonie mortuaire a été marquée par un discours d'hommage, la lecture de l'oraison funèbre et un défilé d'honneur militaire. Inauguration du siège du secrétariat exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana aujourd'hui à Accra. Le premier ministre ivoirien plaide pour l'instauration d'une véritable industrie du cacao. Et puis dans l'actualité internationale au Sénégal, le nouveau président multiplie les mesures de vérification des comptes publics depuis son élection. Bassirou Diomaye Faye a ordonné de nouveaux défis, de nouveaux audits et contrôle financier hier, mercredi. Voilà, c'est la fin de ce jeudi 18h sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous demain vendredi 7h. Tout de suite, le magazine Santé pour tous avec Paul Bénédicte Bolou.
Santé pour tous. Santé pour tous.